Figure d'hier, pour aujourd'hui et pour demain, avec le père Roger Wilhelm.
Pour l'amour des arbres, Francis Allais. Botaniste et biologiste, il étudie les systèmes forestiers de régions tropicales. À 78 ans révolus, ce spécialiste de l'architecture des arbres et des milieux primaires humides, avec son radeau des cimes, remettra bientôt le cap vers l'Asie du Sud-Est en quête des canopées inexplorées. À la question « Qu'est-ce qu'un arbre ?», Francis Allais cite volontiers Alessandro Baricco, selon lequel définir l'arbre, c'est comme définir la bêtise. C'est presque impossible, et pourtant nous en connaissons tous d'excellents exemples. Au-delà de l'habile pirouette, le botaniste précise qu'il a beaucoup consulté et travaillé pour tenter d'expliquer ce qu'est un arbre. Tout le sujet reste à l'enfermement sémantique. Oui, la définition de l'arbre dépend de l'origine géographique et culturelle de celui qui la rédige et du style d'arbre qu'il a en tête, souligne Francis Allais. Chacun pense que son arbre est le meilleur, le seul valable, le seul qui mérite d'être appelé un arbre. Mais pourquoi l'une de ces visions de l'arbre devrait-elle l'emporter sur les autres alors qu'elles sont toutes utiles et opérationnelles, chacune dans son propre contexte? Difficile de trouver une définition de l'arbre qui soit satisfaisante, tant les cas particuliers abondent parmi les 70 000 espèces connues. Certes, dans les écoles forestières, on a coutume de dire qu'un arbre doit avoir des branches et mesurer plus de 7 mètres en son plein épanouissement. On a beaucoup d'arbres qui n'ont pas de branches et d'autres n'ont pas de feuilles. On en connaît quasi qui marchent, oui, des arbres qui marchent, qui dansent ou font les timides. D'autres encore sont mous, fous et communiquent entre eux. Certains, tels les bananiers, laissent croire qu'ils en sont alors qu'ils n'en sont pas. On en sait tout de même dont les troncs sont enfouis comme les arbres souterrains de Pretoria ou de Johannesburg. Pour apprécier l'arbre, il faut savoir l'appréhender dans sa globalité, du fait aux racines et dans les trois dimensions de l'espace, le long de cette quatrième dimension qu'est le temps. Il ne faut pas oublier non plus les deux critères qui caractérisent l'arbre. C'est avant tout une plante à chlorophylle qui a besoin de l'énergie du soleil et dont l'architecture est conditionnée par un programme génétique de croissance spécifique. L'arbre reste un être vivant, fixé, immobile. Il peut être unitaire ou coloniaire. Un arbre unitaire, comme les cocotiers, par exemple, est indivisible. Sa durée de vie n'excède pas quelques siècles. L'arbre coloniaire, en revanche, propose un mécanisme qui lui permet de se dupliquer en se colonisant, à l'instar du corail. On parle alors de réitération, un processus qui s'applique aux chênes, aux platanes ou aux durian, comme à la plupart des grands arbres tropicaux. Au début, explique Francis Allais, le jeune arbre selon qu'on l'appelle communément un gourmand, se comporte comme un parasite. J'ai fait le tour des langues européennes. Les Anglais le nomment Zucker, les Italiens Zucchione, les Espagnols Chupione. Le développement du jeune arbre se fait aux dépens de l'arbre ancien, mais ça ne dure pas, car les racines du jeune vont gagner le sol, avec pour conséquence une réitération souterraine et un développement de la colonie en sous-sol. Pour le botaniste montpelliérain, s'intéresser aux arbres, c'est aussi s'intéresser à la condition de l'homme et à ses origines. Dans son ouvrage « Plaidoyer pour l'arbre », il détaille la manière dont l'arbre est l'homme en existant étroitement depuis toujours. Ils ont tant d'intérêts communs en matière de lumière et d'eau, de fertilité des sols, de calme et de chaleur. Et on peut, disons, les considérer comme de véritables partenaires dans cette entreprise surtout hasardeuse qu'est la vie terre, la vie. Que se doivent-ils l'un à l'autre? En quoi seraient-ils différents s'ils n'avaient pas vécu ensemble? Certes, l'homme a transformé certaines espèces par la greffe, la taille, les croisements ou les modifications génétiques. L'homme a fait entrer l'arbre dans ses catalogues et ses encyclopédies, dans ses mythes, ses légendes, ses religions, ses cosmogonies ou ses productions culturelles et artistiques, écornant au passage son altérité en l'anthropomorphisant. Il a également perfectionné ses modalités de gestion de l'arbre. Et si l'on considère les programmes de déforestation systématique, il faut bien reconnaître que l'homme agit souvent par convoitise en vue d'un profit immédiat. Quant aux bienfaits que l'arbre aurait apporté à l'homme, ils sont incommensurables, selon Francis Allais. De l'ombre sur la route, aux olives de l'apéro, de la flambée de l'âtre, au marron de la dinde, du carton où s'abrite le sans-abri, au tableau de bord en ronce, de l'aspirine aux pneus d'avion, il y a bien peu de choses où l'arbre n'est pas pris place dans notre vie, mais avec la discrétion qui le caractérise. Et d'ajouter qu'au-delà des bénéfices que nous retirons tous les jours des arbres, nous leur devons notre verticalité, notre bipédie et notre intelligence. Bref, notre identité et notre nature d'êtres humains. Car nous ne sommes que des nouveautés à côté des arbres, ces géants qui peuplent la Terre depuis 380 millions d'années. Il y a 17 millions d'années, la bipédie fait son apparition chez les primates, les grands singes qui se déplacent par balancement des bras d'une branche à l'autre, se comportent déjà en bipède lorsqu'ils foulent le sol. Le port vertical de l'homme découle de son rapport à l'arbre, indique Francis Allais. En effet, pour grimper sur son arbre, il faut pouvoir se dresser sur ses pattes arrière, posséder une cage thoracique et un ventre plat, une colonne vertébrale érigée, être capable de libérer ses mains, de mouvoir la tête de part et d'autre des épaules. Il faut jouir d'un pouce opposable aux autres doigts et Dieu rapproché pour voir le relief, ce qui libère l'arrière de la tête. Enfin, il vaut mieux disposer d'une bonne analyse de la troisième dimension si l'on veut se déplacer dans la canopée. La moindre faute d'inattention, et c'est la chute. Ce n'est pas un milieu où il est facile de se reposer et a fortiori de vivre.
Thank you.